Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 14h en temps universel, 15h à Paris.
Florent Guignard.
Bonjour à la une de ce journal. 90 Palestiniens et 3 Israéliens vont retrouver demain la liberté. Nouvel échange entre le Hamas et Israël. Également dans ce journal, nous entendrons le témoignage poignant de la sœur de Cécile Kohler, française, détenue en Iran depuis 1000 jours. Dans l'actualité française, l'adoption d'un projet de budget de compromis. On parlera aussi de la déforestation en Indonésie, elle progresse, et notamment la déforestation légale à cause des mines, de l'huile de palme. Et l'huile de palme, mais au Cameroun, ce sera le thème de C'est pas du vent, dans 10 minutes, juste après ce journal. Un nouvel échange d'Israéliens et de Palestiniens se précise pour demain. Ce sera le 4e depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas. 90 Palestiniens devraient être libérés par Israël, alors que le Hamas, de son côté, devrait relâcher 3 Israéliens, dont le franco-israélien Ofer Calderon, envoyé spécial à Tel Aviv, Muriel Paradon.
Ofer Calderon, 54 ans, a été enlevé le 7 octobre 2023 au kibboutz Nir Oz avec ses 2 enfants, Erez Issahar, âgé de 12 et 16 ans, qui eux ont été libérés en novembre 2023 lors de la première trêve entre Israël et le Hamas. Ils vont donc tous pouvoir être réunis à nouveau. Nous avons pu joindre au téléphone Nisha Idan, l'oncle de l'ex-femme d'Ofer Calderon. Il se réjouit de la nouvelle.
Mon cœur bat, je sais pas, 200 coups par seconde. J'ai peur d'être déçu, mais je ne pense pas à ça. C'est la première fois que je me permets d'être pas réaliste, mais optimiste. Je ne sais pas comment je vais passer ces heures-là, mais je suis très ému, très ému.
Ofer Calderon sera libéré demain, en même temps que l'israélo-américain Keith Siegel, 65 ans, qui lui va retrouver sa femme, ex-otage libérée lors de la première trêve. Et puis Yarden Bibas, 35 ans, dont le nom de famille est devenu un symbole en Israël. C'est le père des 2 enfants Bibas, dont un bébé, enlevé également le 7 octobre avec leur mère. Le Hamas les a donnés pour morts dans un bombardement de l'armée israélienne au début de la guerre, mais l'information n'a jamais été confirmée par Israël. Muriel Paradon, Nicolas Benita, Tel Aviv, RFI.
Également demain, le point de passage de Rafah entre la bande de Gaza et l'Égypte devrait rouvrir, ce qui permettrait l'évacuation de blessés palestiniens pour qu'ils soient soignés en Égypte. Aujourd'hui, près de ce poste frontière de Rafah, des centaines d'Égyptiens ont manifesté pour s'opposer à l'idée avancée par Donald Trump de déplacer les habitants de Gaza en Égypte et en Jordanie. Et puis, tout à l'heure, puis la nuit dernière, d'ailleurs, Israël est accusé d'avoir violé le cessez-le-feu avec le Hezbollah, une frappe israélienne qui a été menée dans la plaine de la Beka, qui a fait 2 morts et 10 blessés. L'armée israélienne affirme avoir visé des cibles du Hezbollah. Aujourd'hui, ça fait 1000 jours que la Française Cécile Kohler est détenue en Iran. Une détention arbitraire. Elle avait été arrêtée en 2022, accusée d'espionnage alors qu'elle faisait du tourisme. Sa famille vient de demander à Emmanuel Macron d'intervenir pour obtenir sa libération parce que, comme le dit sa sœur Noémie Kohler, qui a pu avoir de ses nouvelles il y a quelques jours, Cécile Kohler ne va pas bien.
On sent qu'elle va de plus en plus mal, on sent que c'est de plus en plus difficile pour elle d'imaginer qu'elle va pouvoir sortir un jour, parce que ses geôliers ont aussi joué avec son espoir en lui faisant croire qu'elle allait sortir, en lui donnant des échéances, de fausses échéances, notamment la dernière fois, on lui a dit qu'elle allait être libérée avant son anniversaire, le 25 septembre, elle n'a pas été libérée. Donc je pense que c'est des choses aussi qui pèsent énormément sur son moral, qui la brisent. Elle va plus tenir longtemps en fait, c'est plus une question de mois, là c'est une question de semaines, voire une question de jours. Il faut absolument la sortir de là le plus rapidement possible.
La sœur de Cécile Kohler, témoignage recueilli par Pierre-Olivier. 8 voix contre 6, la commission mixte paritaire en France a voté et a tranché. Un compromis a été trouvé sur le projet de budget qui sera soumis au vote des parlementaires français lundi prochain, à moins que François Bayrou ne décide d'utiliser l'article 49.3, d'engager la responsabilité de son gouvernement. Une adoption du texte sans vote, mais avec la menace d'une motion de censure. Ce projet de budget dossier, ce compromis trouvé tout à l'heure à la mi-journée, il va permettre de limiter à 5,4% le déficit public, ce que salue le député macroniste Jean-René Cazeneuve, suppléant dans cette commission mixte paritaire.
C'est un moment politique extrêmement important sous la Ve République. Je pèse mes mots, c'est la première fois qu'on a en CMP un accord qui va de la droite, qui passe par le centre et qui va jusqu'au socialisme, en tout cas qui satisfait une partie de la gauche. Donc c'est un moment extrêmement important. Et chacun va essayer de comprendre qui a le plus gagné, qui a fait le plus de compromis. Non, je crois que la bonne lecture de ce qui vient de se passer, c'est que c'est la France qui sort gagnante de ce compromis historique avec, et il faut aussi le remarquer, un déficit de 5,4% qui a été respecté. Ça n'était pas facile, chacun voulait évidemment défendre son budget, nous avons respecté ce socle, cet objectif de 5,4% de déficit.
Le député macroniste Jean-René Cazeneuve au micro de Charlotte Turien-Tomaca à l'Assemblée nationale et lors des dernières heures de bataille dans cette commission mixte paritaire, il a beaucoup été question de l'AME, l'aide médicale d'État pour soigner les étrangers sans papier. Bien finalement, son budget va baisser cette année de 111 millions d'euros. RFI, il est 15h06 à Paris. Demain, ce week-end, ce sera peut-être le début de la guerre commerciale que veut lancer Donald Trump avec ses voisins, le Mexique et le Canada. Les États-Unis pourraient en effet surtaxer les importations de produits canadiens et mexicains de 25%. Donald Trump l'a à moitié confirmé hier. Justine Fontaine, il y a quand même une hésitation chez le président des États-Unis. Il ne sait pas si le pétrole va faire l'objet de ces surtaxes.
C'est ça, parce que même si les États-Unis sont le premier producteur mondial de pétrole, ils en importent aussi depuis le Mexique, mais surtout depuis le Canada. La moitié des barils importés par Washington viennent de son voisin du Nord. Du coup, une hausse brutale des droits de douane pourrait avoir des conséquences directes pour l'emploi de près de 30 000 salariés de raffineries américaines. Le puissant syndicat de travailleurs du secteur United Steelworkers a appelé Donald Trump à ne pas mettre sa menace à exécution. Ça fait réagir aussi côté canadien. La ministre des Affaires étrangères avertit que si Washington importe moins de pétrole du Canada, il risque de devoir le remplacer par des barils venus du Venezuela, dit-elle, car c'est du pétrole lourd comme le brut canadien. Une perspective difficile à imaginer pour Donald Trump, qui est un fervent critique du régime de Nicolas Maduro et un partisan des sanctions contre Caracas. Le week-end dernier, après une escalade diplomatique, le président milliardaire avait finalement abandonné l'idée d'imposer des droits de douane contre la Colombie, grâce, selon la Maison Blanche, aux concessions obtenues alors de la part de Bogota.
Justine Fontaine du service économie de RFI. Puis après le pétrole, la déforestation en Indonésie, elle a augmenté de 4000 hectares en 2024, un chiffre fourni par l'ONG Auriga Nusantara, qui alerte d'ailleurs sur une progression de la déforestation légale. Juliette Pietraszewski, elle menace la biodiversité, tout simplement.
Oui, exactement. Et c'est à partir d'images, satellites et d'enquêtes sur le terrain que l'ONG Auriga Nusantara a pu parvenir à ce constat alarmant. À la clé des chiffres vertigineux, plus de 2600 km² de forêts primaires et secondaires déboisées en 2024. Une augmentation pour la troisième année consécutive et une progression de la déforestation légale qui touche presque toutes les provinces du pays, sauf la région autour de Jakarta. Les pertes les plus importantes se situent sur l'île de Bornéo, et notamment dans la région de la nouvelle capitale, Nusantara, en pleine construction. Les ONG environnementales appellent donc le chef de l'État, Prabowo Subianto, au pouvoir depuis octobre, à mettre en place un décret présidentiel pour protéger toutes les forêts naturelles restantes. Seulement, voilà, les derniers projets annoncés par le président vont complètement dans le sens inverse. Farid Ridwanuddin travaille pour l'ONG Greenface Indonesia.
Nous avons aussi une grande menace avec le nouveau président, parce qu'avec son ministère de la forêt, il va développer de grands projets avec de nouvelles plantations d'huile de palme, des réserves alimentaires et énergétiques. Ils veulent convertir près de 20 millions d'hectares, donc c'est très inquiétant.
20 millions d'hectares, l'équivalent de la superficie du Sénégal, alors que l'Indonésie possède la troisième forêt tropicale du monde, après celle du Brésil et du Congo, Florent.
Juliette Pietraszewski du service climat, environnement, restez sur RFI, puisqu'on va continuer de parler déforestation et culture de l'huile de palme dans C'est pas du vent dans un instant.